Bonsoir à tous, Nicolas Pineau avec vous pour ce numéro un peu spécial de Sporama. Nous sommes le 25 décembre 2017. Joyeux Noël à tous ceux qui nous écoutent, de bonnes fêtes de fin d'année. On va évidemment avoir un numéro un peu différent en ce jour si particulier. On va saluer évidemment ceux qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui ont l'habitude d'être de l'autre côté du fil. Évidemment, tous nos intervenants, j'ai nommé Amine Birouk à Casablanca, Jules Valentin Goué à Libreville, Élisée Ongpatine à Boïcon, au Bénin, sans oublier également Ambinsi qui se trouve à Dakar, ou encore Thierry Kamboundi, Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on ne vous donne pas la parole, mais on va entendre un grand intervenant du football africain. J'ai nommé le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmat. Je l'ai interviewé la semaine dernière après son voyage en Afrique et avant qu'il ne se rende dans son île natale, sa grande île, Madagascar. On écoute tout de suite cette interview exclusive pour VOA Afrique avec le président Ahmat de la Confédération africaine de football. Et on se retrouve juste après, tout de suite sur VOA Afrique, interview exclusive du président Ahmat. Aujourd'hui, diriez-vous que la révolution est en marche au sein de la Confédération africaine de football ?
J'estime, oui, d'une manière générale. Nous avons tenu notre promesse d'apporter ce changement. Et changement au niveau de structure, changement au niveau des règles. Et ça avance. Il y a des réformes des statuts, il y a la nouvelle gouvernance, il y a la mise en place des manuels de procédures. Il y a évidemment la nomination des secrétaires généraux et des secrétaires généraux adjoints qui essaient d'équilibrer le continent. Et puis, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est la WAD. Vous savez très bien que notre sponsor nous a abandonnés en milieu de l'année. Il a fallu qu'on fasse un effort exceptionnel pour avoir trouvé un autre sponsor, un autre partenaire qui a été haut, qui vient de Nigeria, une société pétrolière. Voilà.
Aujourd'hui, au niveau des finances, comment se porte la Confédération africaine de football ?
Vous savez, avec les contrats qui sont déjà ficelés depuis, nous n'avons pas de main libre pour aller dans d'autres, créer d'autres sources de financement. Mais on est en train de répertorier déjà et que nous sommes en notre administration, les nouveaux venus sont en train de voir maintenant comment revoir les opportunités qui nous restent par rapport à ce contrat pour qu'on puisse aller de l'avant et de créer d'autres sources de financement.
Mais on parle de quoi là ? On a un budget à peu près de 100 millions de dollars, ce serait à peu près ça ?
Ouais, c'est toujours stabilisé autour de ce montant.
Quelle est l'attitude de la CAF sur ce contrat avec Lagardère, des droits marketing et télévisés ?
On remercie qu'ils ont accepté de discuter. On est dans cette phase actuellement de discussion. Si on peut dire de renégociation avec Lagardère, on attend. Il y a des réunions stratégiques. Donc on continue, c'est pas facile, c'est pas évident, mais si chacun est de bonne volonté, apparemment ils ont de bonne volonté d'aller de l'avant pour voir avec la nouvelle administration qu'est-ce qu'on peut ouvrir encore. Voilà. Pour permettre à d'autres partenaires, parce qu'on a senti qu'il y en a beaucoup de partenaires qui veulent s'associer à la CAF, qui veulent accompagner le football africain.
Un mot sur le nouveau secrétaire général de cette confédération africaine, Amr Farmi.
Je ne dis pas un mot sur lui, mais sur l'équipe, parce qu'il y a nous, on a nommé ensemble les trois secrétaires généraux, lui-même en tant que titulaire et ses deux adjoints, qui est chargé de l'administration, M. Alaoui, et Anthony Bafoué, chargé du football. Donc, on voit, il bouge beaucoup. Ils sont en train déjà de voir comment mettre aussi de l'équilibre, de la balance au niveau du recrutement de tous les directeurs. Donc, on a toujours annoncé que la CAF appartient à l'Afrique. Il faut que tout s'identifie à l'Afrique. Voilà notre objectif.
Et concernant le secrétaire général, certains ont critiqué le fait qu'il soit petit-fils et fils d'ancien secrétaire général. Quelle est votre réponse ?
Vous savez, ce n'est pas un handicap d'être fils de quelqu'un. Moi, je pense même que c'est un avantage. parce que vous avez vécu dans ce milieu, vous avez, et en plus même il a suivi des formations plus que ceux qui sont avant lui, dans sa famille, et tout ça lui a donné une prédisposition d'être en avance par rapport aux autres. C'est vrai qu'il est jeune, mais il faut donner, pour moi, il faut donner la confiance aux jeunes que de toujours s'éterniser avec les systèmes de mandarinat.
Lors d'une interview sur VOA Afrique, Jérémy, évidemment, Njitap, l'ancien joueur camerounais, parlait de l'importance de la relation avec la Confédération africaine de football pour traiter du dossier de la précarité des joueurs de football en Afrique. Quelle est votre position sur ce sujet ?
Nous, on est ouvert à toute discussion, à tout projet qui peut avancer dans ou aplanir certains problèmes au sein de la Confédération. C'est un problème récurrent. Du moment que FIFPro nous aide aussi à aller de l'avant, à nous proposer des idées, des mesures qu'il faut prendre, c'est une bonne chose. Peut-être on ne va pas le comprendre directement, on n'arrivera pas au bout, mais petit à petit, je pense, surtout avec la mise en place des licences de club et avec la mise en place de nouvelles dispositions qui nous ramènent vers le professionnalisme du football africain, on arrivera toujours à aller de l'avant.
Est-ce qu'on peut imaginer un système contraignant où finalement les clubs seraient obligés de payer le salaire des joueurs à temps ?
Vous savez, c'est un processus. Un processus, ce n'est pas évident qu'il y a une formule magique pour le régler. Déjà, même trouver des gens qui recrutent les joueurs en Afrique, vu la situation économique dans certains pays, ce n'est pas évident. Tout ça, il faut voir de près. Et la faute n'est pas seulement peut-être du côté des dirigeants de clubs, il y a aussi la réalité du pays qui fait qu'ils ne peuvent pas assumer ce genre de responsabilité.
Vous l'avez dit aussi, l'un des principaux chantiers, c'est la professionnalisation du football en Afrique. Quelles sont vos pistes pour justement réaliser dans cette cinquantaine de fédérations membres la professionnalisation ?
Vous savez, il y a une manière de l'aborder. Et même aujourd'hui, il y a des fédérations qui n'ont pas de professionnalisme au niveau des clubs, mais il y a déjà des joueurs qui sont payés, mais à un montant insignifiant, on peut dire. Mais c'est un début, et que nous ne pouvons pas nous isoler de la réalité économique du pays. Il y a certains pays qui sont bien soutenus par leur gouvernement, qui leur donnent des moyens, et en plus même, il y a des compagnies privées qui commencent à s'investir aussi, à accompagner certaines fédérations. Là, ça marche bien. Mais dans d'autres pays où le gouvernement n'apporte rien, vu la précarité, et puis il faut aller tout doucement, mais il faut que tout le monde s'associe. Voilà. Il faut impliquer toutes les parties prenantes dans le processus pour qu'on puisse aller de l'avant.
Le prochain rendez-vous sportif pour cette Confédération africaine, c'est bien évidemment le CHAN qui aura lieu au Maroc. C'est important, cette compétition réservée aux joueurs locaux pour vous ?
Il y a tout d'abord les awards le 4 janvier à Accra. Et après, tout de suite après, c'est le CHAN. On va voir que c'est le même format de compétition avec ses équipes. Mais c'est la réorganisation interne, l'implication du pays, beaucoup plus du pays organisateur dans tous les aspects de l'organisation. C'est là qu'on va voir comment redynamiser nos compétitions. Si on ne parle pas, par exemple, de la finale de la Ligue des Champions cette année, personne ne peut dire que ce n'est pas bien réussi. Donc, la finale retour à Casablanca, ça a été une grande finale, que ce soit au niveau technique ou même l'affluence de la population, l'ambiance dans le stade, ça a été exceptionnel.
Est-ce que vous êtes favorable à une finale en un seul match pour cette Ligue des Champions ?
Vous savez, c'est peut-être la différence. Moi, j'écoute les gens, j'ai réuni les acteurs, les techniciens, ils réfléchissent, ils conçoivent comment on peut améliorer les compétitions. La commission est déjà mise en place. Ma tâche, c'est de choisir des gens qui sont mieux placés pour discuter de ce problème. Dans la commission, par exemple, de l'interclub, il y a une partie qui sont des présidents de clubs, des grands clubs, une partie président des ligues professionnelles qui marche bien, et une autre partie des présidents de fédération. À eux de voir, de discuter et de débattre de ces problèmes et nous proposer. Je sais que lors de la première réunion déjà, ils ont essayé de chercher des pistes de création de compétitions ou d'amélioration des compétitions existantes pour qu'il y ait beaucoup plus de compétitions au sein des clubs. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis toujours, d'ailleurs pas aujourd'hui seulement, c'est qu'il y a des pays qui ne participent qu'une seule fois dans les interclubs. Un seul match et ils se sortent. Plus de matchs internationaux. C'est ce genre de choses que nous essayons de remédier pour qu'il y ait plus de compétitions, parce que la compétition fait partie de la formation. Donc voilà ce qu'on est en train de voir.
Mais à titre personnel, vous avez une opinion ou finalement vous n'avez pas d'avis sur la finale à un tour, à un seul match ?
Avec la mentalité chez nous actuellement, je pense que c'est encore un peu difficile de se hasarder d'organiser une finale à un tour. Pourquoi ? Ça, vous voyez que lorsque ce n'est pas l'équipe de l'équipe haute qui joue là, le stade n'est pas plein. Donc il doit y avoir d'autres démarches à faire avant d'arriver peut-être à une finale à un tour. Mais jusqu'à maintenant, la finale à deux tours nous va bien. Je ne vois pas où est le problème de le modifier.
Le monde aura les yeux rivés sur l'Afrique, en Russie évidemment. Hein. Russie 2018, 5 représentants africains. On avait parlé précédemment, vous et moi, du soutien de la CAF à ces équipes. Et on a eu cette somme, hein, évidemment, 500 000 dollars à chaque équipe qualifiée. C'est ça aussi l'aide de la CAF et l'implication pour la préparation de cette Coupe du Monde.
Vous savez, nous avons toujours une manière, nous en Afrique, de dire c'est pas la valeur qui compte, mais le geste. C'est-à-dire il faut faire sentir à ces nations qui représentent le continent que nous sommes tous là. Tout le monde s'associe avec eux pour les accompagner. Donc ça ne s'arrête pas là. Il y a une commission qu'on a mise en place. Et cette commission va travailler étroitement avec le président de club, les présidents des fédérations, des pays qualifiés, pour voir ensemble aussi comment on peut les accompagner. Voilà. Évidemment, tout le monde... Ce qu'on souhaite, c'est qu'une équipe africaine arrive le plus loin possible dans cette compétition. Et ce n'est pas seulement l'Afrique. Tout le monde, tous les continents envisagent toujours d'aller le plus loin possible. Voilà.
Et alors évidemment, après ce tirage moscovite, quelles sont vos ambitions pour ces 5 équipes africaines sur le plan sportif ?
Vous savez, moi, je ne me hasarde jamais de faire des pronostics. Pourquoi ? Parce que le football a beaucoup changé et que beaucoup de paramètres rentrent en compte pour le résultat du match. Donc, une blessure quelconque peut changer le cours du match ou une mauvaise tactique adoptée par l'entraîneur changera tout. Vous voyez, donc... C'est pour ça que si on vit dans le milieu du football, si on réfléchit bien, c'est difficile. C'est difficile de faire un pronostic. Évidemment, sur papier, il y a toujours les entre guillemets grands pays du football, mais il faut y être pour voir qui peut aller loin et qui peut gagner cette compétition.
2 à 3 équipes en 8e de finale, ce serait cohérent selon vous ?
2, je pense. 2, 3, ça peut être, oui.
Vous étiez à Abidjan cette semaine. Où en est la préparation ? Est-ce que vous êtes satisfait de l'état d'avancement, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée, pour les Coupes d'Afrique des Nations 21 et 23 ?
Beaucoup plus. Je suis parti pour partager avec le chef d'État notre vision pour le développement du football africain. Et dans ces pays qui accueillent, qui ont l'attribution d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, leur rassurer par rapport aux rumeurs que certains essaient de véhiculer que nous, la CAF, on maintient ces décisions. Et on souhaiterait accompagner ces pays-là. Même pour le Cameroun, c'était toujours notre message. Vous savez, chacun a sa manière de chercher de l'argent. Il y a ceux qui parlent pour trouver de l'argent, donc ils créent des sensations. Il y a ceux qui écrivent pour trouver de l'argent, donc chacun a sa manière de... Et on reproche à qui que ce soit par rapport à ça, et chacun a son objectif dans la démarche. Mais nous, en tant que responsables du football africain, nous, la décision est claire. CAN 24, au mois de juin, flexible par rapport à la situation météorologique, et un cahier de charge bien précis. Et, comment vous dire, et la mise à l'écart des politiciens dans les visites d'inspection. Voilà. Tout doit être transparent, objectif, et qu'à ce moment-là, il y a des étapes de prise de décision.
Voilà. Mais sur la Côte d'Ivoire, vous êtes satisfait, hein, d'après, j'avais vu vos différentes déclarations, pour le moment, tout va bien.
Hein. Oui, je pense qu'ils sont, le chef de l'État même s'est engagé dès le début. Vous savez que c'est le premier pays, sur les trois pays, à mettre en place son comité d'organisation. Donc, ça nous impressionne, nous sommes sensibles à ce genre de gestes de la part de la plus haute autorité du pays.
Donc, concernant le Cameroun, quand est-ce que la CAF prendra sa décision finale?
Je crois que c'est dans le cahier des charges, si je me rappelle bien, c'est 9 mois avant le début de la compétition que la CAF doit prendre les décisions.
Donc, aux alentours de septembre 2018, on saura.
Oui, peut-être.
Est-ce que vous pensez que le candidat Armat serait satisfait des premiers mois de la présidence Armat?
Vous savez, dans ma culture, on nous dit toujours qu'on ne peut pas se juger soi-même. Ce sont les autres qui doivent juger nos actions. Mais moi, ce qui m'importe, c'est que on a pu mobiliser tous les acteurs du football africain, en majorité, tous les acteurs, les stakeholders, disent les Anglais, et que au sein même du comité exécutif, on a pu trouver, on a pu mettre en place des débats, et tout le monde est libre de parler maintenant, de proposer, et que ce sont les meilleures idées, les meilleures propositions qui sont retenues. Et moi, je pense que c'est le rôle du président d'écouter ses membres, de discuter, de se référer à eux et prendre les décisions ensemble, décisions qui s'imposent, et protéger ces décisions du rôle du président.
On voit souvent Armat, alors que normalement, vous vous appelez que Armat, hein, si je ne m'abuse.
Oui, mais vous savez, c'est la réalité du terrain. Hein. Donc, lorsqu'on me donne Armat, je vais prendre le nom. Il n'y a pas de mal à ça.
Mais techniquement, dans la tradition...
D'ailleurs, avec les systèmes informatiques aujourd'hui, je suis toujours obligé, depuis certains moments, de faire deux noms Armat.
Mais techniquement, dans la tradition malgache, vous n'avez finalement qu'un seul nom qui vous sert à la fois de prénom, c'est Armat, c'est bien ça?
Il y en a pas mal de malgaches. Et même, je vois dans d'autres pays, il y a des gens, c'est ce que j'avais dit une fois dans un pays, je ne me rappelle plus où, qui m'ont... à l'aéroport m'ont mis un peu des pressions, pourquoi? Et moi j'ai dit, mais à la fin, lorsque je suis entré dans le pays, j'ai vu dans les feuilles de match des joueurs qui ne portent qu'un seul nom. Et à la fin, ils m'ont dit, non, mais le vôtre, c'est Ahmad, c'est courant chez les musulmans, c'est pour ça qu'on exige que ça soit deux. Des gens qui portent trois, il y a des gens qui portent deux, il y a des gens qui portent quatre, ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui porte un. Donc chacun doit respecter...
On a compris que voilà, vous ne vouliez pas qualifier évidemment vos premiers mois de présidence, mais est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui?
Heureux, je ne sais pas, franchement. Heureux, mais je sais que je travaille beaucoup aujourd'hui. Je n'ai pas de temps de repos. Voilà ce que je peux dire. Et j'ai un sentiment qu'on veut prendre ses responsabilités, mais en fin de compte, lorsqu'on y est, on souffre beaucoup. Voilà.
C'est beaucoup de fatigue.
On n'a plus de vie, on n'a plus de vie personnelle, ni familiale.
Écoutez, merci à vous.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, comme d'habitude.
Voilà pour cette interview du président de la Confédération africaine.